Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, comme je vous disais en début de cette liturgie, aujourd'hui nous célébrons une des grandes fêtes de l'orthodoxie, ou, comme je vous ai dit, on devrait plutôt dire quatre fêtes. La première, c'est la fête de la purification de la Vierge Marie, celle que nous appelons la toute pure. Alors pourquoi fêtons-nous sa purification ? Était-elle quand même impure ? De quoi avait-elle à être purifiée ? Dans la loi mosaïque, c'est dans le Lévitique, toute femme devait, 40 jours après l'accouchement de son fils, apporter un agneau d'un an ou deux colombes ou des tourterelles au temple pour les offrir en sacrifice et être ainsi purifiée. Aujourd'hui, cela nous paraît étrange que l'accouchement soit source d'impureté. Mais à l'époque, l'impureté n'avait pas le sens péjoratif que nous lui donnons aujourd'hui. Ce n'était pas une punition pour une faute. Lorsqu'une femme avait ses règles, elle perdait du sang. Et le sang était le signe de la vie. Lorsque l'on perdait, on perdait en quelque sorte la vie, ou on perdait une vie. C'était donc un signe de mort. Or, la mort était quelque chose d'effrayant, qu'on ne pouvait toucher, de peur d'être contaminé. Lors de l'accouchement, la mère perdait aussi beaucoup de sang. Elle était affaiblie, elle pouvait avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le baby blues, et 40 jours étaient considérés comme un temps de repos nécessaire pour retrouver un état dit normal. Alors nous en rions aujourd'hui, car la science a montré que c'était naturel d'accoucher, qu'il n'y avait rien de morbide, qu'il n'y avait rien d'effrayant ou d'impur dans cet acte. Mais à l'époque, la loi mosaïque faisait preuve de sagesse et donnait 40 jours de repos aux femmes après l'accouchement. C'était en somme le repos de maternité que nous avons réintroduit aujourd'hui. Et il y avait une possibilité de montrer que tout était redevenu normal, c'était de se présenter au temple et d'offrir un sacrifice de louange et de remerciement. Marie était une fille juive. Elle avait mis au monde un fils et 40 jours après, elle accomplissait les préceptes de la loi juive. C'était bien pour elle et Joseph, c'était une fête et non une punition. Quelque chose à réparer. La deuxième fête, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Ici aussi, pour comprendre, il nous faut retourner à l'époque du Christ. Et les préceptes de la loi mosaïque, puisque c'était toujours elle qui était d'application à cette époque, disaient, et vous l'avez entendu donc dans la première lecture, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. » Tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Et tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme. Ça, c'est dit dans le livre des Nombres. Cette loi n'est pas une loi morbide et cruelle. Dieu ne veut pas de sacrifices sanglants, mais un appel à la prise de conscience que tout ce que nous avons est don de Dieu. Le premier-né, et surtout à cette époque, c'est le bien le plus précieux. Avoir un fils, c'est assurer la postérité, la sécurité pour sa vieillesse. Et si l'on n'y prend pas garde, nous pouvons l'idolâtrer et en faire notre Dieu, et ainsi nous détourner de notre chemin. Souvenez-vous que Dieu avait demandé la même chose à Abraham en lui demandant d'offrir en sacrifice son fils Isaac. Alors sacrifier, ce n'est pas renoncer avec regret à ce qu'on aime, mais c'est le rendre sacré, le transformer. Pour le Christ, c'est venir permettre la déification de l'homme. Le Christ vient actualiser l'ancienne loi de Moïse et en faire un chemin de vie éternelle. Il s'offre pour racheter la vie de l'homme, le sortir de l'absurdité de la mort inéluctable. Il nous montre quel est le chemin de l'homme, se donner par amour à Dieu pour devenir nous aussi semblables à Dieu. Et symboliquement, dans l'Eucharistie, nous refaisons cette offrande pure, cette offrande raisonnable, dans le sens premier qui veut dire rempli de l'Esprit Saint, cette offrande non sanglante. C'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, disons-nous. Le Christ, éternellement auprès du Père, n'avait nulle nécessité d'être présenté à l'Éternel, son Père, mais il se soumet à cette présentation par amour pour l'homme. La troisième fête, c'est la fête des Lumières, mieux connue aussi sous le nom de la Chandeleur. À l'origine, c'était une fête païenne. Et ce n'est qu'en 472 que le pape Gélas Ier va récupérer cette fête, le 2 février, en organisant une procession au flambeau du Forum à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Cette fête des Lumières, 40 jours après Noël, clôturait ce qu'on peut appeler les théophanies de la Lumière, qui ont commencé à Noël, et souvenez-vous du tropaire de la fête, on chantait « A fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance ». Puis, la deuxième théophanie, c'était à l'épiphanie, et c'est la lumière qui brillait dans le ciel pour conduire les mages. Et aujourd'hui, c'est Siméon qui s'exclame, « Lumière qui doit se révéler à toutes les nations et gloire de ton peuple Israël ». Nous avons béni les cierges avant la liturgie, et ces cierges symbolisent la vraie lumière qui illumine tout homme, ce qu'il y a d'obscur en lui. Cette lumière, c'est le Christ. Après la communion, d'ailleurs, nous disons, nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, parce que comme Siméon, après la communion, nous sommes dans le même état, nous venons de recevoir le corps et le sang du Christ. Nous reconnaissons que la nourriture que nous venons de recevoir, c'est pour notre salut. Et que cette nourriture n'est pas pour notre condamnation, mais pour notre sanctification. Et enfin, la quatrième fête, c'est celle de la Sainte Rencontre. La rencontre de l'Ancienne Alliance, symbolisée par le vieillard Siméon et Anne, la prophétesse, et la Nouvelle Alliance, symbolisée par l'enfant Jésus. La vieillesse, le vieux monde, cède la place à la jeunesse, à un monde renouvelé. Cette vieillesse n'était pas sénile, mais au contraire remplie de sagesse et de foi. Siméon avait trois qualités, comme on nous dit dans l'Évangile. Il était juste, c'est-à-dire qu'il suivait les préceptes de Dieu, craignant Dieu, c'est-à-dire conscient de la grandeur de la majesté de Dieu, et il attendait non pas quelque chose, mais quelqu'un. Celui qui serait le consolateur d'Israël. L'Esprit de Dieu était sur lui, nous dit-on. C'était son guide, et il le mène ce jour vers le temple. Siméon s'efface devant celui qui apporte le salut, la nouvelle et éternelle alliance, comme nous disons dans l'Eucharistie, et qui nous unit chaque fois à celui qui est la vie. Nous aussi, nous sommes invités à une rencontre chaque fois que nous assistons à la divine liturgie. C'est dans notre cœur que nous recevons celui qui est le sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Soyons aujourd'hui le vieillard Siméon qui reçoit le Christ dans ses bras. Restons justes, craignant Dieu, et nous saurons partir en paix vers la vie éternelle. À lui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.